Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan.
Yo.
Salut Pascal, salut Dan.
Et salut Mitch.
Salut les gars, salut
et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ces épisodes confinés. J'entends un petit écho, je sais pas d'où il vient Mitch.
À mon avis c'est un des kits main libre qui est un peu fort. Mais...
D'accord, ok. Donc bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ces épisodes confinés. Pour ceux qui nous découvrent, on rappelle qu'on est un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, nous recevons à chaque épisode une invitée à laquelle on pose des questions que plein d'autres hommes et femmes se posent dans leur coin. Et vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilshommes.fr. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram. Et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Connie, tu veux parler du Tipeee?
Oui, et bien sûr. tu m'as pris au
micro. Ouais, pardon.
Non, parce que j'y avais cette histoire d'écho là. oui, voilà. Si vous voulez faire partie de l'aventure, voilà, nous accompagner dans le développement du podcast, nous suivre et nous filer un bon coup de main, bah voilà, vous pouvez faire un don sur Tipeee.
Si.
C'est peut-être vas-y Pascal.
Juste rajoute si simplement vous voulez nous montrer que vous nous aimez, quoi, tout simplement que vous kiffez ce qu'on fait.
Bah je le gardais pour la fin, l'amour. Tu sais, c'est un peu
mais l'amour, c'est au
quoi.
Début, Connie.
Ah oui, c'est vrai. Pardon.
L'amour, c'est dès le premier regard, Connie.
Oui, ça dure très peu de temps, c'est vrai.
Il y a 3 secondes en plus. Non, il y a 5 secondes, pardon, pour déclarer son amour. Tu sais bien.
Oui.
La règle des 5 secondes.
Oui, ça dure pas très longtemps.
On en reparlera. Non, pardon, Connie, on t'a coupé.
Donc, un ton ponctuel ou un don récurrent, voilà. Voilà, ça va nous permettre de consacrer plus de temps au podcast, de se déplacer en région, de proposer des illustrations, d'avancer sur ton swipe, etc., etc.
Et on a des contreparties. Quand on devient tipeur, on reçoit l'épisode en exclusivité déjà un jour avant. Et en plus de ça, depuis quelques semaines maintenant, on enregistre des petits bonus pour les tipeurs, donc exclusivement. Donc voilà, vous pouvez pas les écouter si vous êtes pas tipeur. Moi par exemple, je ne suis pas tipeur, je les ai pas écoutés. Truc de ouf.
C'est dommage, ils sont donc, vachement bien. Hein.
Ouais,
ils
en plus apparemment bien. Ils sont hyper bien. En plus je suis dedans, donc faudrait que je devienne tipeur. Voilà. Donc non, plus sérieusement, vous avez des petits contenus, on réfléchit aussi à développer d'autres trucs, mais ouais. Voilà, l'idée c'est vraiment d'amener un petit plus. Évidemment, l'idée c'est que le podcast il reste pour tout le monde, mais que pour les gens vraiment qui participent avec nous à l'aventure, qui nous soutiennent, bah ils ont un petit, ils ont du contenu en plus quoi.
Voilà, on est un peu plus proche aussi en même temps. Voilà.
Donc n'hésitez pas.
Tout
et
à
ouais,
fait.
C'est vrai que j'entends toujours aussi un petit écho. Moi, c'est pas l'un de nos futurs participants qui a pas mute son micro, peut-être.
Oui, c'est ça, mais c'est le prochain là.
Ok. Donc, ça y est, c'est réglé. Vous pouvez ce soir, pardon, j'enchaîne. Ce soir, on se retrouve avec la hotline. Donc la hotline, c'est quoi? C'est qui c'est qui présente la hotline? C'est toi, Dan?
On a dit que c'était la hotline, mais c'était toi qui présentais.
C'est toi le patron.
Oh non.
Alors c'est quoi la hotline? La hotline, en fait, c'est un nouveau format qu'on a fait au début du deuxième confinement. Donc on s'est dit qu'on allait ouvrir la parole à tout le monde. Donc cette fois des hommes notamment, puisqu'on reçoit jamais d'hommes dans nos épisodes des gentilshommes. Mais aussi aux femmes qui ont envie juste de partager des choses. Donc c'est la hotline, c'est notre libre antenne à nous. Si jamais vous avez un coup de gueule, si jamais vous avez envie de dire quelque chose, si jamais vous avez envie de raconter une histoire, comme c'est ce qui va se passer ce soir. Si jamais vous avez envie de présenter des choses différentes, comme c'est aussi un peu ce qui va se passer ce soir, Donc n'hésitez pas à nous contacter, laissez-nous un message, un DM sur Instagram. On essaye de tout focus sur un seul média, c'est moins compliqué à gérer pour nous, donc c'est sur Instagram. Vous laissez un message en mettant Hotline dedans, comme ça on sait que c'est pour la Hotline. Et nous, on fait le tri dans tout ça le lundi vers 17h30-18h et on vous contacte à ce moment-là pour y participer. Alors, on fait ça un peu en dernière minute parce que c'est un format qui est plus simple à préparer de cette manière-là.
C'est donc plus spontané aussi. C'est dans la bonne vibe. Et si le lundi vous avez envie de participer, souvent on balance aussi une story. Donc vous réagissez et puis on vous recontacte dans la foulée.
On a eu plein de témoignages, on a eu plein de choses. Par contre, on n'a pas encore eu de déclaration d'amour ou de déclaration de demande en mariage.
Dans la Hotline. Dans la Hotline, parce qu'on a eu des déclarations dans les messages privés. On a eu des Dan, tu es le plus drôle, c'est
j'ai pas dégueulasse d'ailleurs.
Attends, on a eu des connies, tu as un rire incroyable.
Et ça c'est bien ça.
Moi, voilà, et il y a absolument rien eu pour Pascal. Alors aujourd'hui,
ça viendra Pascal, t'inquiète.
Aujourd'hui dans la Hotline, nous allons avoir le plaisir de discuter avec Aude, avec Ferdi, avec Valentin et avec Charlotte, par qui on va commencer. Salut Charlotte, bienvenue chez les Gentilshommes.
Salut, ça fait plaisir de vous d'être. Bah, pas présente parce qu'on est, on se voit pas, mais on s'entend. C'est
salut
cool,
Charlotte.
Hein.
Et ben, c'est hyper cool. Merci d'être venue. Alors Charlotte, pour recontextualiser un peu, tu nous as fait ce week-end des petits messages audio sur Instagram qu'on a écoutés, puisqu'on écoute nos messages. Voilà, on les lit, on les écoute et du coup, moi j'ai écouté, enfin Dan aussi a écouté tes messages audio et dans lesquels tu nous racontes un peu des anecdotes sur tes copines. Du coup, on voulait revenir dessus parce qu'il y en a qui sont absolument incroyables. Avec la première, c'est une histoire de photos, je crois. Tu veux nous raconter, nous en dire plus?
Ouais, alors c'est vrai que en fait c'est à l'image de l'année 2020, hein, clairement. C'est un peu des histoires un peu foireuses. En fait, j'ai une petite team de potes célibataires, dont une très très bonne copine qui elle cherche à se caser, hein, clairement. Donc elle est sur les applis, etc. Mais elle a rencontré un mec lors d'une soirée. On lui avait vendu entre guillemets, comme quoi c'était un mec un peu timide, bon job, super sympa, beau gosse. Et donc elle l'a rencontré. Il s'est avéré qu'il était un petit peu timide.
Et il avait vraiment un bon job, parce que t'as dit timide, bon job, direct, genre,
bon job,
genre le mec, faut pas qu'il soit RSA, sinon c'est la merde, quoi.
Non. Après c'est des. Enfin, non, après, je sais que voilà, j'ai engrainé toutes mes copines à écouter votre podcast. Donc après,
merci. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Et juste une petite aparté, c'est grâce à toi qu'on est dans le top 30 des podcasts en France, quoi.
Au moins.
Merci.
Merci Charlotte,
c'est ouf.
Donc elles vont me défoncer si je modifie des trucs, mais du coup, c'est un peu ses critères. Après, je pense que. C'est con, hein. Enfin c'est bête, pardon, mais je pense que la plupart des femmes cherchent quand même quelqu'un qui a un peu d'ambition. Moi, clairement, c'est pas un de mes critères, mais bon, ça faisait partie de ses critères. Donc timide, bon de taf. Et effectivement, il a un très bon taf. Et bon, lors de la soirée, tout s'est bien passé. Et en fait, après, ils se sont écrits. Et en fait, le mec lui a envoyé des photos de son taf en mode « Voici mon taf, voici ce que je mange, voici... » Alors, après, ça peut être cool. Ça peut être cool quand la personne demande « Et toi, que fais-tu ?» Je sais pas, enfin, quand il y a un échange. Mais là, en fait, c'était en mode... Voici mon lit, voici ma commode. Enfin...
En fait, le mec, il a un blog.
Le mec, il raconte sa life, quoi.
Je rigole, mais en fait, sur le moment, c'était pas tellement rigolo parce que ma pote, elle était en mode bon, bah, c'est mignon parce qu'après, il faisait genre en mode je suis au taf. Alors, je peux pas dire son taf parce que bon, je pense qu'elle va pas. Enfin, voilà, il a un très bon taf, mais c'était en mode je suis au taf. Mais regarde, voici mon bureau. Enfin bref, on s'en fout. Et en fait, c'était que ça et des petits emojis. Mais en fait, c'est aucune question.
Mais après c'est plutôt cool. Enfin, si jamais ça s'inscrit dans une discussion, dans une conversation, de dire tiens, regarde là, je taffe ici, machin, regarde, je fais ça. C'est plutôt cool, mais du coup, j'ai l'impression que c'était pas le cas, en fait. Ça s'inscrivait pas dans une conversation, quoi. En fait, il discutait pas et il envoyait juste des photos, c'est ça?
C'est ça, pas du tout. C'est exactement ça. Et à la fin, attendez, hein, c'est genre après quelques messages que ma pote envoyait avec « j'espère que tu vas bien », etc. Mais vraiment à la fin, « et toi, ça va ?» Donc pas du tout. C'est un peu,
Tu sais, Charlotte, au début, t'as dit « il était timide, le gars ». Est-ce que c'était pas son moyen de, enfin, tu vois, d'essayer de vaincre un peu sa timidité ? Peut-être qu'il s'est dit « c'est peut-être comme ça qu'il faut que je fasse pour m'en sortir » ou...
Moi, franchement, à 35 ans, au bout d'un moment, la timidité... Enfin, je comprends. Moi aussi, je suis timide, mais je n'envoie pas de photos de mon bureau aux gens avec qui je pense avoir une future liaison ou j'en sais rien. Enfin,
mais t'envoies quoi, toi ?
Ouais, qu'est-ce que t'envoies, toi ?
Ouais, qu'est-ce que t'envoies ?
J'en vois rien.
Ah, c'est pire. Ah,
bah, super.
Non, non, c'est pas vrai. Non, en vrai, je dirais pas ce que j'envoie, mais du coup, j'envoie pas la même chose.
C'est pas dissible.
Non, mais au début, alors après, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'échange. Donc en fait, ils se sont. Alors, il y a eu quelques trucs comme ça. Et quand il était en voyage pour son travail, alors que bon, les gens sont confinés, donc c'est aussi un petit peu. C'est un peu compliqué, donc je pense que oui, effectivement, comme tu dis, c'est un peu sa façon de s'exprimer, mais c'était, il y a pas de question, rien du tout, et en fait, ça c'est, ils se sont vus, il y a eu donc ce qu'ils devaient avoir, ils ont
c'est quoi ce qu'ils devaient avoir, voilà, ok,
voilà, ils ont couché ensemble,
et après alors, il a continué d'envoyer des photos.
Mais non, en fait, quand ils ont couché ensemble, il est resté en mode papouille, je mange un petit peu, je reste dormir, il lui a fait des câlins, il lui a pris la main. Il lui a pris la main pendant toute la nuit. Et il est
parti. Bah, il était
en mode...
peut-être à fond, quoi.
Non, non. Quand t'es à fond, tu poses des questions. Enfin, il y a un échange. Pour moi, c'est à double tranchant, quand même.
Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'il était bien pour elle. Attends. Elle cherche un mec timide. Attends, je m'explique. C'est un mec timide. Il faut qu'il ait une bonne situation. Le mec, il est timide. Il sait pas comment communiquer. Et il lui envoie que des photos de son boulot. Il lui montre que son boulot, il est génial. Pour moi, il répond aux deux critères.
Alors, oui, c'est sûr que... Non, honnêtement, c'est boring.
Je rigole en même temps, mais... mais pas tant que ça.
Il n'y a pas d'échange, en fait. C'est, au bout d'un moment, ouais. Même si tu... Alors, je comprends, hein, mais si tu n'as pas de... Enfin, je sais pas, elle veut construire quelque chose. Bon, certes, c'était peut-être physique aussi avec cette personne-là, mais au bout d'un moment, soit si c'est qu'un plan cul, tu prends pas, enfin, bon, après, c'est des signaux, homme-femme, je sais pas, je veux pas, je sais que ce podcast, on généralise pas, on parle pas trop de genre non plus, parce qu'effectivement, tout le monde peut faire la même chose. Mais allô, t'es un mec, tu lui tiens la main toute la nuit, tu fais des papouilles, mais en même temps, t'en as rien à faire d'elle, tu lui poses aucune question sur sa vie.
Ouais, c'est peut-être. Après... Mais est-ce que la timidité aussi fait que parfois on pose pas de questions ? Je cherche pas à défendre qui que ce soit, moi je cherche à m'interroger parce que c'est vrai que non, mais Connie a soulevé ce point de la timidité. La timidité, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne sait pas forcément comment communiquer. Donc, on n'a pas les mêmes codes et peut-être qu'effectivement, pour lui, envoyer ses photos de bureau, ça voulait dire quelque chose. Peut-être que pour lui, prendre la main, ça voulait dire quelque chose. On le sait, il y a des femmes pour qui prendre la main, ça veut dire quelque chose. Hein.
Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Pascal, aussi. Moi, j'ai connu, il y a genre 15 ans, un truc comme ça, j'ai connu une fille qui, justement, en fait, me racontait plein de trucs, mais qui posait jamais de questions. Ouais. Et en fait, à un moment, je lui ai demandé, et elle m'a dit, écoute, je suis hyper gêné, en fait, j'ose pas te demander et tout, quoi. Et c'était donc de la timidité.
Ouais, alors
après, ça veut pas dire, après, ça veut pas dire que c'est le cas pour ce mec-là, hein, mais peut-être que les deux.
Tu veux dire que passé un certain âge, on n'autorise plus la timidité?
Non.
Ce qui est possible, hein, moi, attends, je suis prêt à l'entendre. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que je veux bien entendre que tu puisses être timide quand t'es jeune et tout, mais pas que dans les relations hommes-femmes, de manière générale. Je pense pas que tu puisses avoir à 35 ans, le même état, la même timidité qu'à 20 ans. C'est qu'il y a 15 ans de développement qui n'ont pas eu lieu et je trouve que ça peut être problématique. Donc, je n'excuse pas, effectivement. Mais pour toi, du coup, c'est vraiment discriminant. Passé un certain âge, être timide, c'est vraiment un handicap, quoi.
Non,
c'est possible, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis prêt à l'entendre.
On est prêt à l'entendre, Charles.
Non, non, alors, honnêtement, non. Parce que moi-même, de mon côté, y a bien des bons cas bien timides. Et ce n'est pas pour autant qu'ils m'envoient des photos de leur bureau ou de leur petit déjeuner. Mais du coup, en fait, il a compris. continué. Ah. Il a continué dans sa démarche. Il a continué là-dedans. Il lui envoyait toujours des photos et jamais de. Et alors le pire, c'est qu'il l'a appelé en mode pour lui dire, bah voilà, là, je vais partir de telle semaine à telle semaine. Mais c'est toujours dans une démarche en mode, je t'ai sous le coude, je t'enverrai quelques petites photos. Et en plus, elle me les a montrées, les photos, mais juste, on s'en fout, on s'en fout. Alors, honnêtement, non, mais les gens timides, franchement, j'en suis moi-même, j'en suis une personne timide, mais au bout d'un moment, soit tu t'intéresses à la personne, soit t'en as rien à faire et tu lâches le morceau, ou alors tu rappelles dans quelques semaines pour avoir ce que tu veux.
Et tu dis que t'es timide, toi. Tu dis que t'es timide. Est-ce que
t'as... Je m'en parle.
Quoi ?
On parle de mes copines.
Oui, mais, attends. Tu parles de ce mec et tout, donc il est un peu loin pour nous et tout, pour notre histoire. Mmh. Toi, tu te dis que t'es timide. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit, t'as fait des trucs que sur le moment, tu t'as fait parce que ça te paraissait juste ou parce que t'étais coincé par ta timidité, et avec le recul, tu te dis, merde, c'était pas le bon truc, tu vois.
Je sais pas. Mais j'ai pas envoyé de photos de mon petit déjeuner. franchement, je critique pas, mais c'est juste la démarche. Alors après, là, on le fait passer pour quelqu'un genre de timide mignon. Mais après, il était moins timide, hein. Il lui envoyait des sextos, mais c'était toujours.
Ah oui.
C'était hardcore, en fait. Hein. C'était tout ou rien, en fait.
Ouais, donc
en fait, au début, il envoyait des.
En fait, quoi.
Il envoyait des photos de bureau pour se contenir. D'ailleurs, si je peux me permettre, on a quelques commentaires de Instagram, dont un qui dit ça. Il dit entre ça et des dick pics, je préfère les photos de bureau.
Ben oui.
Ensuite, on a Elvis qui dit peut-être qu'il voulait te faire connaître son bureau de manière intime. Et enfin, on a un très bon commentaire qui dit « Je suis timide, mais cela ne m'empêche pas de poser des questions à l'autre et de m'intéresser à l'autre. » Voilà.
Merci.
Voilà. Merci beaucoup. Juste parfait, Charlotte, avant de passer au suivant, il y a une deuxième histoire très courte qui m'a interpellé dans ce que tu nous as raconté. C'est, tu peux juste dire un petit peu.
Alors,
si tu vois de quoi je parle,
oui,
cette rencontre, vas-y.
J'ai une collègue, qui, elle, s'est inscrite sur Mythique, hein, clairement, parce qu'elle a, je crois qu'elle a 37 ans, et là, elle veut rencontrer quelqu'un. Et donc là, elle a.
Toi, t'es mort de rire. Non, mais on n'a pas compris que tu sa gueule, arrête.
C'est genre en mode putain, elle s'inscrit sur Mythique, la loose, quoi.
Ah non, parce que justement, moi, j'ai trouvé ça très louable de sa part, parce que avec le confinement, on n'arrive pas à rencontrer des gens de façon naturelle. Enfin, c'est encore plus dur. Donc, du coup, elle s'est inscrite sur ce site-là, et elle a fait donc quelques rencontres, enfin, en tout cas, par message, et un avec qui elle allait le rencontrer, et avant de se rencontrer, il lui a dit, écoute, faut que je te dise quelque chose, j'aime me déguiser en femme pendant mon temps libre, j'aime donc, avec les accessoires, etc. Bon, après, elle n'est pas allée dans le détail, hein, c'est quelqu'un de très réservée aussi, qui est ma copine. Et du coup, elle me dit ça. Et alors, il me dit ça en mode, juste avant qu'on se rencontre, est-ce que ça va te gêner? Enfin, je veux quelqu'un qui soit partant pour ça. Alors, c'était gentil de la prévenir avant.
Mais ils se sont rencontrés, du coup, ou pas?
Non, ils se
sont pas. Ah, du coup, elle a préféré annuler, elle a dit non, ça me convient pas.
Bon, je pense qu'elle c'est quelqu'un de. Bon, elle est ouverte, mais là, sur ce point-là, ça la faisait pas kiffer, en tout cas. Voilà.
Toi, tu serais allé, toi, ou.
Non, c'est pas mon délire.
Non plus.
D'accord. Bah écoute, okay. Il en faut pour tout le monde. En tout cas, moi, je trouve ça louable de l'avoir dit avant, de ne pas s'être lancé dans une relation. Ouais. Et c'est tout à l'honneur de cette personne. Merci beaucoup, Charlotte, d'être venue partager ainsi les histoires de tes copines, puisque toi, tu es trop timide pour nous partager les tiennes.
La prochaine fois, quand tu nous rappelles, il faudra que tu racontes tes histoires à toi aussi un peu.
Ça un petit peu.
Elle est non, pas on te taquine, hein. mais vraiment, merci beaucoup d'être venu. Ça nous fait très plaisir. On va enchaîner avec Valentin. Alors attendez, Valentin, que je reprenne mes notes. Ouais. Valentin, tu vas nous parler d'un sujet qui va faire tilt. Je sais que ça va faire tilt. Je sais que tous les gens qui nous écoutent, et en particulier les femmes qui nous écoutent, mais c'est pas vrai parce que même les hommes, ils vont être concernés. Tu vas nous parler de contraception masculine.
Ouais, c'est ça. Vous m'entendez bien toujours?
On t'entend bien. Salut Valentin. Merci d'être là parmi nous. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le sujet? On t'écoute.
Et bien que ça existe en fait, la contraception masculine. Non, en fait, c'est juste pour vous parler un petit peu des. Enfin, par exemple, je vais vous poser une question. Vous pensez qu'il y a quoi comme méthode qui existe pour se contracepter en tant qu'homme?
La vasectomie.
Ouais, ouais, carrément. Ensuite,
c'est une bonne question.
Le préservatif.
Ouais, le préservatif,
carrément.
Il y a
l'abstinence.
Il y a l'abstinence de ouf, bien sûr.
Le retrait, alors aussi, vu qu'on y est.
Le retrait, c'est pas.
Ah,
il y a
les c'en est une, c'est considéré comme une méthode de contraception
qui marche à 3% ou un truc comme ça, mais c'est une méthode de contraception.
Il y a des slips chauffants, non?
Et puis les injections
c'est des boulots chauds, des bons vieux boulots chauds.
Et puis les injections définitives.
D'après toi, les injections dans la vasectomie, t'as effectivement différents types d'injections. Mais après, enfin moi, je surtout, vous avez tout ce que vous avez raconté, ça existe. La vasectomie, c'est quelque chose qui est très peu répandu en France, malheureusement, mais qui est plus répandu dans les communautés un peu anglo-saxonnes, parce que de par les politiques un peu médicales dans les pays, on force entre guillemets les médecins à parler de tous les types de contraception. Dès l'enfance dans les pays anglo-saxons. Et dans ces types de contraception, donc la vasectomie, mais il y a la méthode hormonale aussi qui existe. On nous ment en fait depuis très longtemps.
C'est quoi la méthode hormonale?
Alors, méthode hormonale, c'est pas une pilule. Effectivement, la pilule, le format pilule n'existe pas. Mais depuis les années 80, il y a un protocole qui est validé par l'OMS, donc c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Hein. Et après, une fois que le protocole est validé par l'OMS, normalement, les cliniques, les hôpitaux doivent le prendre, enfin les organismes de pharma doivent le prendre en main pour le tester cliniquement et s'assurer qu'il est bon en fait et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais en tout cas, une fois qu'il est validé par l'OMS, c'est déjà une super étape qui est franchie, tu vois. Et donc en fait, le protocole en question, c'est une injection d'hormones de testostérone. En fait, tu viens saturer en testostérone et du coup, tu bloques la spermatogénèse, enfin la production des spermatozoïdes. Mais c'est une injection intramusculaire, donc c'est un peu contraignant d'hormones une fois par semaine. Donc c'est pas forcément ce qu'on va préférer, sachant qu'il y a des effets secondaires qui sont aussi au moins aussi emmerdants que la pilule féminine. C'est pas celle qu'on préfère promouvoir. Et en fait, il y en a une dernière que je crois que c'est Dan qui en a parlé, qui l'a cité. C'est la fameuse méthode thermique que moi j'utilise là depuis bientôt 6 ou 7 mois maintenant. Donc je peux vous l'annoncer, je suis stérile. Je ne vais pas avoir d'enfant, mais par contre, si je veux en avoir un jour, c'est totalement réversible. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant, tu vois.
Tu peux entrer dans le détail, ouais,
je sais pas comment ça marche.
C'est quoi, c'est un slip que tu mets, c'est ça?
Alors, Ouais, non, c'est pas. Alors, on dit slip chauffant, mais c'est pas slip chauffant. On peut aussi dire remont de couilles, boulot chaud, ça s'appelle. Gros, c'est venu d'une observation en fait on a observé dans les années début des années 1900 les problèmes de fertilité des forgerons. Parce qu'en fait, ils avaient les burnasses trop près du feu, en fait, tout simplement. Et du coup, la température augmentait. Et la température augmentant, ça a arrêté la spermatogénèse. La spermatogénèse qui est toujours la production de spermatozoïdes. Et de ça, dans les années 80-90, il y a eu plusieurs personnes qui sont emparées de ce truc-là dans le monde. Et en France, il y a notamment le docteur Miossé à Toulouse. Qui a créé un slip avec sa petite machine à couture de couture. Il a étudié l'anatomie humaine, tu vois, enfin de l'homme, et il a créé un slip qui permet en fait de remonter les couilles, tout simplement. Naturellement, les gars, je pense que vous avez tous vu déjà quand vous avez froid, par exemple. Vos couilles, ben elles remontent. Elles remontent. Pourquoi elles remontent? Parce que justement, elles aiment pas avoir trop froid. Du coup, elles vont se mettre au chaud à l'intérieur du corps. Tu vois. Mm-hmm. Et ça, c'est un phénomène qui est complètement naturel. Et cette loge là, dans l'intérieur du corps, elle permet de garder les testicules à 37 degrés. Okay, oui. Et quand elles sont dans le scrotum, quand il fait un peu trop chaud, justement, elles sont plus lâches. Et elles sont plus lâches pour pouvoir avoir plus d'air et se refroidir un peu plus, tu vois. Et normalement, en fait, elles sont dehors parce qu'à 34,5 degrés, c'est la température à laquelle là, il y a la production de spermatozoïdes. Donc, en fait, tout le but de la contraception thermique, c'est de réchauffer ces testicules en les bloquant dans ton corps, la position qui quand t'as froid, elle remonte naturellement, tu vois. Donc, ce fameux docteur Mioset, il a créé un petit slip que tu mets en dessous d'un vrai caleçon, parce que ton slip, il est pas super sexy, tu vois, c'est un petit Athéna bien serré qui est pas super joli. Et mais en fait, tu fais tout simplement enfin, c'est pas très radiophonique comme explication, mais tu fais, t'as un slip et au milieu, au niveau de la verge, il faut imaginer un trou que tu peux passer la verge, la peau des, la, le scrotum, la peau des couilles en fait, et les testicules remontent dans le corps, et ça fait absolument pas douloureux. C'est absolument pas gênant. Et en fait, elles se tiennent à 37 degrés. Et au bout de 3 mois, moi, tu vois, j'ai attendu 3 mois, on dit qu'il faut attendre 3 mois, tu as une, tu as une descente de. Enfin, moi, j'ai fait un premier spermatogramme. Un spermatogramme au, donc, j'ai expérimenté la, le spermatogramme en labo. C'est une expérience à vivre, hein, les gars, je vous le dis. Franchement, c'est une expérience à vivre.
Ah ouais.
Ah ouais. Aller se masturber dans un labo et dans un pot, ça fait quelque chose, hein, je te le dis. Et donc, tu vois, j'avais j'avais un certain taux qui était, moi, j'avais 90 millions de spermatozoïdes par millilitre, par exemple. J'y vais dans les détails, hein, comme ça. Moi,
c'est beaucoup. C'est beaucoup, 90 millions.
C'est normal. C'est, en gros, il faut la fourchette, c'est entre 20 et 200 millions. Tu vois, donc elle est énorme.
200
la
millions, putain, ouais. C'est énorme. Quoi.
Voilà. Donc moi, 90 millions, bah, je suis au milieu, un peu au milieu, quoi. Et ensuite, le but, par la méthode thermique, en appliquant son. Alors moi, c'est pas un slip, parce qu'il y a un fabricant bordelais. Moi je suis de Bordeaux, c'est comme ça que je l'ai découvert, et qui a créé une espèce d'anneau qui est beaucoup plus pratique à porter que le slip, que tu peux, t'as pas besoin de laver du coup tout, enfin si tu le laves à la main, mais ça va très vite du coup, qui est en silicone, un peu le même matériau que la cup un peu. Que tu mets pareil, le même principe autour de ta verge, et que tu tires la peau de ton scrotum à travers. Et après avoir porté ce truc là 3 mois, je suis allé refaire un spermatogramme, et ça a été radical. Parce qu'en fait, moi, je suis maintenant. Alors, le seuil à atteindre, qu'on te conseille à atteindre, c'est 1 million de spermatozoïdes par millilitre. À ce seuil-là, tu as autant de chances de provoquer une grossesse non désirée que nana qui prend la pilule a de chances d'avoir une grossesse non désirée.
Et ouais, 99%, un truc comme ça.
Ah ouais.
Exactement. Et tu peux même arriver en fait en azoospermie. Donc azoospermie, c'est zéro. Et ça, ça dépend un peu de ta physiologie. Ça dépend un peu le nombre d'heures que tu le portes. Et en fait, t'arrives vite à. Moi, je suis en azoospermie.
Parce que, il faut le porter tout le temps.
Ouais, alors.
Oui, c'est il faut le porter juste. Il faut le porter
15 heures par jour.
Ah oui, quand même.
Ouais, alors ouais. En fait, en gros, on te conseille de le porter 15 heures par jour. C'est pas forcément sur une plage de 24 heures. Donc, c'est pas forcément 15 heures d'affilée. Après, il faut pas faire des coupures de 3 heures au milieu. Mais par exemple, tu vas faire du sport, tu te douches, t'as un rapport sexuel, n'importe quoi, tu peux l'enlever s'il te gêne. Tu vois, c'est pas un souci.
Tu peux carrément aussi le garder.
Il paraît que c'est très bon avec l'anneau aussi. Enfin, des collègues qui m'ont dit que c'était très bien. Pour le sport, si t'arrives à le tenir, c'est très bien aussi. Donc, tu peux les garder sans souci. Mais c'est 15 heures par jour. En se disant que, après, ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on te dit 15 heures par jour, parce qu'à 15 heures, on est sûr que c'est le taux d'horaire qui suffit. Mais après, si tu as une physiologie qui est un peu plus, disons, à 14 ou 13 heures, avec des tests de spermogramme réguliers tous les mois ou toutes les 2 semaines pour le début, si tu comprends qu'avec 13 ou 14 heures de porte, tu arrives quand même à une azoospermie ou à moins d'un million, tu peux passer à 13 ou 14. Ça se trouve, tu feras que tu le mettes 16. Et ça, c'est l'expérience. Tu vois.
Et à partir de combien de temps tu. Par exemple, si tu arrêtes de le porter,
ouais.
À partir de combien de temps ça revient? Parce que tu disais que c'est, pareil, ouais. c'est réversible.
C'est complètement réversible, ouais. En fait, ouais. On estime, alors ça dépend un peu de la physiologie, mais en fait, on dit aussi que comme il te faut 3 mois pour supprimer les spermatozoïdes à partir du moment où tu le portes, c'est à peu près un cycle de spermatogénèse complet en fait, hein. 3 mois, c'est-à-dire qu'à partir de la première création du tout petit gamète, la cellule souche, jusqu'au spermatozoïde mature, il faut 3 mois, tu vois, donc il y a quand même une sacrée usine à l'intérieur. Et en fait, suivant ta physiologie, si tu es plus ou moins rapide, c'est entre 2 et 3 mois tu retrouves une fertilité. Par exemple, là, le problème, c'est que toutes ces méthodes-là, c'est pas été emparé, je te dis, par les grands pharma, à la clinique, etc. Donc, on n'a pas de recul clinique et de test à long terme. Par contre, par l'expérience, parce que c'est depuis les années 80, on est 200 ou 300 en France à tester ce protocole-là qui marche super bien. Enfin, moi, depuis les années 80, j'étais pas né dans les années 80, mais je m'y suis mis il y a 6 mois. Mais des collègues que j'ai eu au téléphone, des mecs qui ont créé l'anneau ou le slip, par exemple, on a le plus long, la période la plus longue pendant laquelle il était porté, c'est 5 ans. sans problème, de pas un seul problème de
bébé.
Pas de bébé. Et il a arrêté et en 3 mois il a retrouvé la fertilité, il a eu un gamin. Parce qu'il a arrêté parce qu'il voulait un gamin.
Ah ouais. C'est pas ça. Questions. Évidemment, ça a pas l'effet du préservatif sur tout ce qui est les
IST, bien sûr, etc. Oui. Alors c'est ça qui est important à dire aussi.
Du coup, j'imagine que c'est intéressant à partir du moment où tu es en couple de façon un peu sérieuse. Enfin, le moment où on a passé le test, le test HIV.
Je pourrais nuancer après, mais je suis d'accord. Vas-y.
Bon, pour aller un peu vite. Du coup, c'est à partir de ce moment-là qui devient intéressant. Est-ce que toi, comment ça s'est passé? Est-ce que déjà, t'as eu l'occasion de te mettre en couple comme ça avec une nana et lui dire, écoute, tu peux arrêter la pilule parce que moi, regarde, je pensais que moi j'ai ce moyen de contraception. Ça s'est passé comment?
Alors toute la question elle est là. Alors moi je suis toujours célibataire. Je l'ai aussi commencé parce que j'étais célibataire en me disant j'ai un peu de time, je vais pouvoir me tester un peu, etc. Donc là j'ai toujours pas eu l'occasion de voir une chérie pour pouvoir partager tout ça quoi. Quoique la semaine prochaine je peux vous l'annoncer déjà normalement avec un clic qui vient. Donc on va pouvoir en parler.
Déjà en parler.
Non mais au-delà de ça en fait comme tu dis c'est très intéressant parce que la question c'est pas de se porter en pré-chevalier servant de la cause féministe, même si je partage complètement les choses, c'est plus se dire je me réapproprie ma fertilité, tu vois. À un moment donné, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, c'est des méthodes qui existent depuis les années 80-90, on ne nous en a jamais parlé. Et quand moi j'ai appris ça il y a un an, parce qu'il m'a fallu un an ou deux ans de je m'y blique dans la tête pour me dire bah, c'est bon, je suis capable de me foutre un anneau autour des couilles, quoi, tu vois. C'était plus une question de se dire, mais putain, moi j'ai eu des occasions quand j'étais plus jeune de. Ben, j'ai une ex qui est tombée enceinte, avortement. J'ai eu des problèmes de capote, la capote c'est génial, hein, aucun problème, mais moi j'ai aucun problème à la mettre, mais quand ça pète quoi. Donc après c'est pilule du lendemain, quand tu sais qu'il faut qu'ils en prennent qu'une fois dans la vie, chaque nana normalement quasiment, parce que c'est des putains de bombes hormonales. Ça fait réfléchir dans le sens où moi je veux pas de gamin. Donc, si tu veux, c'est 50-50 le choix. La nana veut pas de gamin, moi je veux pas de gamin.
Si je peux me permettre, si tu veux pas de gamin, pourquoi tu vas pas sur une solution plus radicale dans ce cas-là, comme la vasectomie ou des choses comme ça?
Non, mais tu as fait raison. C'est une question. Je veux pas de gamin pour l'instant.
D'accord, pour l'instant.
Donc je me dis que je vais pas. Voilà, c'est plus ça. Après, la vasectomie, en fait, en soi, j'y pense aussi de plus en plus. Parce que tu peux faire congeler ton sperme, en fait, tu vois. Et tu peux te vasectomiser. Bon, après, c'est moins romantique l'acte et l'insémination. On peut le dire, mais bon, en soi, c'est une option qui est tout à fait radicale aussi. Et donc, si tu partages à 50-50 l'envie de ne pas avoir d'enfant, mais par contre, tu fais porter à 100% les conséquences de la mise enceinte, tu vois, enfin, de la fécondation. Donc, pas à la nana, c'est-à-dire qu'elle va prendre la pilule, c'est elle qui prend tout. Et toi, t'as beau être en soutien derrière, psychologique à fond. En fait, physiquement, c'est elle qui endure le tout, tu vois. Donc, c'était en plus une question de me dire, moi, j'ai plus envie que ça se passe comme ça, je suis un grand garçon. Je viens pas faire la leçon aux hommes, hein, c'est pas du tout la question. Je parle de mon avis et voilà, c'est vraiment une question quand on est en couple et quand on est un garçon. Moi, il m'a fallu un an de réflexion avant de m'y mettre. Enfin, c'est normal quoi, de réfléchir, de se dire c'est bizarre et tout. Enfin, c'est normal, mais c'est juste se dire. J'ai plus où j'en étais, bordel.
Tu disais qu'en fait, en tant qu'homme, ça te donnait un pouvoir sur la fertilité.
Sur la fertilité,
la procréation, mais c'est un peu pas le bon mot, mais on se comprend.
Oui, voilà. Ça me donne en fait ça me redonne mon droit à la contraception et mon droit, parce que on a beau dire ce qu'on veut, si on est très pragmatique, on enlève tous les effets secondaires horribles de la pilule. La contraception, c'est un droit incroyable. La contraception cyclique qu'ont les nanas, c'est un droit incroyable de pouvoir gérer sa fertilité comme ça. Dans le sens où tu peux choisir de dire, ben là, je veux des enfants ou je veux pas d'enfants. Nous, entre guillemets, on nous a privé de ça depuis tout petit, en nous disant, tu fais tout reposer sur la nana de manière complètement misogyne, etc. On est complètement d'accord. Hein. Mais, tu vois, on nous enlève ce truc-là. Et le fait de le récupérer, et d'en parler avec les gens, enfin de récupérer, ça fait un bien fou en fait. Moi je me sens super bien depuis 8 mois, tu vois, en me disant mais je gère mes testicules comme je l'entends, tu vois. Et quand, pour revenir à Connie, à ta question sur les filles, en fait la question c'est pas de dire moi je fais de la contraception, c'est bon, je suis le proche chevalier servant, tu peux arrêter bébé, il y a aucun problème. Non, c'est si tu as envie de continuer à prendre une contraception, tu la prends aussi, c'est une question personnelle en fait. C'est une question qui après dans un couple peut s'envisager en parlant parce que voilà, elle supporte plus la pilule ou alors on a juste marre de se fader la pilule depuis 20 ans, tu vois. Mais et que toi tu peux gérer le truc, mais en fait avoir une double contraception dans un couple c'est aussi bien. Si je rencontre une nana, évidemment que je vais mettre une capote au départ, tu vois. Et puis si elle est pas confiante en la méthode, malgré les spermogrammes que je vais lui mettre sur la tête, la pile de spermogrammes que je vais lui mettre devant les yeux pour lui dire que voilà, il va falloir jamais un classeur, tu vois. Et
bah, tu viens avec ton classeur direct au premier rendez-vous, hein.
Et malgré ça, tu vois, je si elle est pas confiante, on mettra la capote, enfin y a aucun souci, tu vois. C'est juste que il faut se dire que c'est quelque chose qui existe. Il y a plein de méthodes qui existent pour les garçons. On n'est que 200 ou 300 en France à l'utiliser et c'est quand même bien dommage parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent la question de se dire putain, la capote ça me plaît pas ou ça fait que péter ou c'est l'enfer. Enfin voilà. D'ailleurs, pour les capotes, c'est pas, si on galère avec les tailles, c'est parce qu'on nous vend dans le marché que du L ou du XL. Donc si tu mets ton pied dans du 42 et que tu fais du 38, c'est sûr que ça pète à un moment donné. Tu vois. Donc voilà. Il existe des capotes sur mesure dans le marché.
Mais non, moi j'ai trouvé du S. Hein.
Ah, t'as trouvé du S.
Même, il y a même XS. J'ai vu.
Okay. Bah, okay, non, voilà. Ok, merci
beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Ouais.
C'est hyper intéressant. Et on en parle trop peu.
C'est voilà. Le but du jeu, c'est que tu en parles. Et merci en plus de nous éclairer. On a des commentaires très positifs sur ton intervention, sur notre compte Instagram. Donc, et nul doute que ça va parler à tous ceux qui vont écouter cet épisode en replay là sur notre flux. Ouais. Donc merci d'être venu partager ça avec nous. Merci du courage d'en parler.
S'il y en a qui sont intéressés, il y a des associations qui promeuvent la méthode. Ardecom sur internet, ARDECOM, et Garcon, Garcon comme la chanson de Coxy. Et voilà.
Très belle référence.
N'hésitez pas à aller voir.
Merci Valentin. Merci
Valentin.
Allez,
ouais.
On va enchaîner avec Ferdi. Salut Ferdi.
Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et bien, pense à prendre ton micro, à mettre ton micro un peu plus près de ta bouche.
Ok.
Ouais.
Ouais.
Et peut-être un tout petit peu le son de tes écouteurs, si c'est possible.
Ouais. Merci Ferdi. Donc ensemble, on va parler de rencontres. Mais vas-y, explique-nous un peu de quoi il en retourne. Je sais que tu as parlé de sujet avec Connie.
Alors effectivement, j'ai parlé de sujet de rencontre avec Connie parce que j'ai créé moi en début d'année 2020 une agence de rencontre dans le Morbihan. Et quand je dis agence de rencontre, alors j'ai tourné ça en mode 2020, mais c'est le concept de l'agence matrimoniale, c'est-à-dire de faire en sorte de créer des rencontres réelles et uniquement réelles.
Très bien. Ça se passe comment ?
Alors les gens me contactent, on fait un premier entretien ensemble, en gros je me déplace chez eux, on fait un premier entretien qui dure entre 1h30 et 2h30 suivant les personnes, où je pose beaucoup de questions, j'essaie de comprendre ce qu'elles ont vécu, comment elles fonctionnent, ce qu'elles recherchent comme type de relation et comme type de personne. Les choses qu'elles souhaitent vivre, les choses qu'elles ne souhaitent plus vivre, parce que ça va avec, et ensuite à moi de faire en sorte de leur présenter des personnes qui vont correspondre à leurs attentes.
D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu retiens de ces relations ? T'arrives à faire des relations amoureuses déjà ? Est-ce que les gens arrivent à se rencontrer ? Et quand ils se rencontrent, qu'est-ce qui fait que ça marche ?
Alors moi c'est vraiment j'ai monté ça moi en début d'année et j'ai vraiment commencé à travailler après le premier confinement parce que forcément ça a été un peu compliqué au tout départ. Et donc là je suis vraiment on va dire à la fin des 6-8 premiers gros mois sur lesquels j'ai donc constitué un fichier et au final grâce à ça, j'ai pu donc mettre en lien certains de mes adhérents, en sachant que j'essaie d'être le plus honnête et le plus sincère possible, c'est-à-dire que ben, ça prend parfois du temps, je suis vraiment dans la constitution d'un vrai bon fichier d'adhérent et ça prend du temps parce que, parce que il faut que moi je sois crédible, il faut que les gens aient confiance. On rentre dans de l'intime, c'est quelque chose, on me confie en fait une recherche très intime et très importante. On parle de sentiments, on parle de vécu, on parle d'amour, donc bah forcément ça implique beaucoup de choses. Et dans les rencontres que j'ai pu créer, certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. Pour le moment, j'ai un couple. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à peu près une quarantaine d'adhérents dans mon agence. Ça va en termes d'âge de 32 jusqu'à 73 ans. Donc c'est vraiment très cosmopolite. Exceptionnellement, parce qu'a priori, il y a toujours plus de femmes que d'hommes dans les agences. Et je suppose que c'est le fait que moi, je sois un homme. Eh ben, pour le moment, moi, dans mon agence, c'est un peu l'inverse. J'ai plus d'hommes que de femmes. Et le but, en fait, c'est aussi d'apprendre grâce aux mises en relation qui ne fonctionnent pas. J'ai, par exemple, une dame qui a perdu son mari il y a quelques années, mais assez jeune. Et donc, je l'ai fait rencontrer un monsieur qui avait perdu sa femme il y a très, très longtemps, mais donc qui a élevé ses enfants tout seul et ainsi de suite. Et a priori, il y avait une sorte de, pas de frein, mais d'inquiétude ou de méfiance chez la dame. Donc la rencontre n'a pas abouti. Et là, le monsieur m'a expliqué que il avait vécu cette sensation-là et cette méfiance-là, le côté un peu méfiance, injustice et ainsi de suite. Et il m'a dit, voilà, à mon avis, moi, il m'a fallu 6 ans pour sortir de ça. Et lorsque j'ai fait mes premières rencontres, j'ai vécu à peu près la même chose. Donc peut-être que cette dame-là a encore besoin d'un peu de temps avant de pouvoir faire une rencontre plus constructive ou des choses comme ça. Donc en fait, grâce à chacun, j'apprends chaque jour et ça me permet de faire des alignements ou des ajustements dans les rencontres.
Et qu'est-ce qu'ils cherchent d'un côté comme de l'autre ? Est-ce qu'il y a des généralités ou est-ce que c'est vraiment... chaque personne est différente. Est-ce que les femmes cherchent quelque chose en particulier, les hommes plus quelque chose ?
Alors, le cliché basique de les hommes cherchent entre 10 et 15 ans de moins est une réalité.
Ah, ok.
Voilà. et les femmes un peu moins. Les femmes, j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus pragmatiques sur la réalité des choses et sur la réalité du vieillissement. Ça, c'est quelque chose que je constate beaucoup. Et effectivement, les hommes n'aiment pas se regarder ou n'aiment pas se voir vieillir. Alors j'ai envie de vous dire, ça parle à tout le monde forcément, mais un peu plus justement dans cette perception de l'autre où on va essayer d'aller vers du 10 ou du 15 ans de moins. Et c'est récurrent. Mais il n'y a pas de jugement dans mes paroles. Hein. Je constate juste une situation que je vois très très régulièrement.
Et si je peux me permettre, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais pourquoi est-ce que les gens vont... Enfin, qu'est-ce qui font que les gens vont chez toi, en fait, et vont pas sur les applis de rencontre ? Parce que ça me paraît plus simple, non, de pas juste de scroller et de swiper à droite ou à gauche.
C'est en apparence plus simple, mais on est en 2021 aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines d'applis de rencontre ou de sites de rencontre. Et en gros, avec tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de connectivité, je pense qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de faire des rencontres facilement. Et je constate malheureusement qu'au final, on n'a jamais eu autant de célibataires et autant de gens qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Et moi, je suis parti de ce postulat et j'ai aussi beaucoup écouté les gens autour de moi et je me suis aperçu que, les faux profils, les gens déjà engagés, les personnes pas intéressantes ou des choses comme ça, ben en fait c'est un espèce de fouillis ou des choses comme ça et on trouve pas forcément en face de gens qui ont envie de construire du sérieux, qui ont envie de s'engager ou des choses comme ça. Alors ça va un peu à rebrousse-poil des grandes phrases qu'on entend maintenant sur le fait que s'engager c'est plus trop à la mode ou des choses comme ça. Moi à l'inverse, j'ai avec les adhérents que j'ai aujourd'hui, clairement on est vraiment dans une démarche de cultiver quelque chose de posé, de construit, d'engagé. Un truc plutôt sérieux, en fait.
Tu penses que c'est générationnel ou pas du tout ? Parce que là, tu disais que tu avais... ça commence à 30 ans, c'est ça ? Tes adhérents ?
ça, Ça va de 30 à 60, 73.
Donc c'est pas forcément générationnel. Oui, t'as un peu de tout. Alors t'as pas les, on va dire, t'as pas les très jeunes. Les vingtenaires, tu les as pas.
Mais étonnamment, c'est les plus, curieux sur le, sur ma démarche en fait.
Donc, comment tu constates ça?
Bah pour en discuter pas mal lorsque je parle de l'agence. Si effectivement je vois à l'endroit où je suis. Les gens posent quelques questions, mais effectivement, ceux qui sont le plus étonnés, le plus surpris de la démarche, c'est justement, j'ai envie de vous dire, les 20-30 ans.
Moi, je suis pas trop étonné, pour dire la vérité. Tu sais, nous, depuis, les gentilshommes, on va avoir 4 ans, et dès notre deuxième année, on nous disait, mais il faudrait qu'on fasse, que vous fassiez un truc pour qu'on se rencontre, etc. Et il y a quelques temps, moi, j'ai lancé un sondage sur nos réseaux sociaux, et la première question était très simple, c'était... Est-ce que vous préférez faire une rencontre pour de vrai ou avec, non, c'était pas ça la première question. Ah bah j'ai oublié.
Super, je t'en rappelle plus, Conny.
Si, c'était ça. est-ce que vous seriez intéressé par un moyen de faire des rencontres dans l'esprit des gentilshommes? Et j'ai 80% de réponses de personnes qui disent oui. Sous-entendu, bah, ça veut dire des rencontres qui se font avec bienveillance, dans le dialogue, dans le respect, etc. Et après, j'ai posé une deuxième question dans la foulée, qui était, à votre avis, pour qu'une rencontre comme ça marche, et de l'avenir, et soit une rencontre pour une relation un peu sérieuse, est-ce que ça passe par une application, ou est-ce que ça passe par quelqu'un, une personne humaine? Et à 80%, encore une fois, les gens pensent que pour avoir une... Enfin, là, dans ce cas-là, pensaient que ça passait par une personne humaine pour faire une rencontre un peu sérieuse. Là, pour l'instant, bon, j'ai continué avec quelques volontaires. On continue à creuser pour voir si, effectivement, il y a moyen de faire une rencontre sérieuse dans l'esprit des gentilshommes. Mais je retombe sur ce que tu dis. J'ai lancé une enquête sur Google Form avec ceux qui voulaient bien le faire, et je l'ai pas encore complètement dépouillé. J'ai pas encore tout le monde n'a pas répondu. Et effectivement, la question de la personne humaine et pas de l'algorithme est cruciale parce que j'ai la sensation que la complexité de la rencontre ne peut pas être résolu par un algorithme. On a peut-être dans l'idée qu'un algorithme, ça peut tout... On a peut-être cette idée dans la tête que la technologie, ça prend le dessus sur tout. Un algorithme, ça répond à toutes les questions. Et en fait, la sensation que ça donne, c'est que finalement, l'amour ou la rencontre, l'alchimie de tout ça, ne peut peut-être pas être rendu par un algorithme. Et du coup, la question qui vient après par rapport à ce que tu fais, c'est la question de l'amour. Parce que, est-ce que c'est ça que viennent chercher les gens? Et est-ce que, avec ceux avec qui tu as réussi à avoir quelque chose, il y a de l'amour qui naît?
Alors, il y a deux choses super importantes, effectivement. C'est donc, effectivement, retrouver l'amour et retrouver le fait de partager quelque chose avec quelqu'un. Et après, effectivement, c'est la définition même de l'amour qui va être intéressante et qui peut être intéressante dans tous ces cas-là. Et il y a aussi et surtout, je le constate, un besoin de rompre une solitude trop lourde, trop pesante. Et puis c'est là où c'est aussi un peu compliqué, c'est que on est quand même beaucoup dans une société de l'image où quand on est en couple, on s'affiche, quand on est en couple, on partage des choses, et plus encore aujourd'hui avec nos stories, où on part en vacances et on le montre, où on vit des trucs cool à deux, on le montre, ou des choses comme ça. Ce qui fait que je pense que ça stigmatise, pas forcément volontairement, mais ça stigmatise forcément les gens célibataires et les gens qui aimeraient vivre quelque chose et qui ne le vivent pas. Donc pas tous forcément, hein. Il y a plein de célibataires qui n'ont pas forcément envie d'être en couple et des choses comme ça, mais en tout cas pour ceux qui le souhaitent vraiment, c'est des situations à laquelle ils ont une vraie envie de remédier et d'aller vers quelque chose de construit, de sérieux et de choses comme ça en fait. Et je pense que ça dépend aussi de l'âge, c'est-à-dire que on va pas du tout avoir les mêmes attentes à 30 ans qu'on va avoir à 50 ans, alors on va dire 50 à partir de 55 ans. À 30 ans, on est vraiment dans une phase de construction et on a envie de construire une famille. En plus de l'histoire, en fait, on a envie de bâtir quelque chose. Après 55 ans, on a déjà eu une, voire deux vies, et on est plus dans une volonté de partager des bons moments sans forcément vivre avec l'autre. Ça m'a vraiment surpris. Les trois quarts des personnes que j'ai de plus de 55 ans ne désirent pas forcément vivre avec la personne qu'ils vont rencontrer. C'est surtout ça, de partager des bons moments.
Ça t'arrive pas sur des sites plus jeunes? Par exemple, t'as pas de gens de la quarantaine ou de 35 ans qui te disent « je veux pas vivre avec quelqu'un »
Ça m'est pas encore arrivé. La finalité,
d'accord, ok.
La finalité,
donc c'est vraiment quelque chose sur les plus... Ensemble.
Ouais, la finalité, d'accord, c'est vivre ensemble. Ouais.
Donc tu as défini, donc c'est à partir de 55 ans que la finalité n'est plus de vivre ensemble.
Ouais, je dirais entre 55 et 60 ans. Quand on a vraiment...
D'accord.
En fait, alors, pour revenir sur les généralités de tout à l'heure où je parlais de la perception des hommes de l'âge et des choses comme ça, à l'inverse, pour les femmes, on est vraiment dans ces âges-là, en l'occurrence, sur des schémas où la femme, elle a géré... pour beaucoup de femmes, vraiment tout géré. C'est-à-dire qu'elle a géré les enfants, l'éducation des enfants, la gestion de la maison, la gestion... Ça fait cliché de dire ça, mais la gestion du mari, l'intendance en globalité. Et une fois qu'elles sont sorties de ce schéma-là, et donc pour beaucoup ont divorcé ou ont perdu leur mari, et encore je dirais même que c'est un peu différent, elles sont plus dans une ouverture pour vivre un peu pour elles.
D'accord.
Mais là, clairement, on ne veut plus les mêmes contraintes qu'on avait avant et ainsi de suite.
Ok, ça se tient.
Ouais, ouais. Et puis ça rejoint quelques invités qu'on a eus qui,
bien sûr,
qui ont à passer 50 ans voulaient vivre plus pour elles.
Tout à fait, on a eu beaucoup de témoignages à ce sujet et on embrasse toutes nos suiveuses qui ont passé la cinquantaine et qui s'expriment sur le sujet dans des messages en privé. Merci beaucoup Ferdi de
merci
tout ça.
Merci Ferdi, bonne continuation.
Bon courage et tiens-nous au courant. Hein.
Ouais, et on va,
bah okay. Ouais.
On va maintenant retrouver Aude. Salut Aude.
Salut tout le monde.
Et Aude, tu vas nous parler de Catfish. Alors je suis désolé, moi je sais pas c'est quoi un Catfish. Tu peux nous raconter
un groupe de rock.
Un groupe de rock des années 60 quoi.
Ouais, non c'est pas ça. Catfish, c'est un faux profil. Tout simplement, ça vient de l'émission il y a quelques années d'MTV qui avait aux États-Unis, qui traquait justement les faux profils sur les applications de rencontres. Et depuis, ça a été l'expression qui, dans le monde des applications, est restée pour parler d'un faux profil. Quoi.
Donc, mais toi, c'est quoi pardon, vas-y, connais quoi.
Toi, tu fais du catfish alors?
Ah non, c'est pas moi qui le fais, c'est moi qui le subis plutôt.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Faut que tu nous racontes un peu.
Bon, bah, raconte-nous alors.
Ouais, raconte-nous.
J'ai eu deux expériences de catfish. Un, c'était pour me soutirer de l'argent, mais je m'en suis assez rapidement rendu compte, on va dire. Donc, j'ai rien perdu d'un point de vue financier dans la bataille, donc tant mieux. Et là, le dernier, ça vient de se passer. Et ça date jour pour jour d'une semaine. Pratiquement. Et là, j'ai, à part éventuellement quelques kilos, l'appétit et tout ça, j'ai pas perdu d'argent ou de choses comme ça. Mais par contre, le moral en a pris un coup, quoi.
C'était sur quelle application et...
Alors, c'était sur Tinder, en fait, pour faire simple. C'est un mec que j'ai rencontré. Virtuellement j'entends, un peu avant Noël et du coup comme on comptait passer Noël avec nos familles restreintes, je vais arriver, mais dont certains membres étaient à risque, tous les deux on s'était dit les quelques jours avant Noël on essaye de voir vraiment pas grand monde pour éviter et donc en fait on s'était dit qu'on se verrait juste après Noël.
Donc tu l'avais jamais rencontré, à la base t'as juste chatté avec lui.
Ouais voilà c'est ça, et donc okay. Très rapidement on est passé naturellement sur WhatsApp etc, il y a eu un super bon feeling tout de suite etc etc. Et pour la petite anecdote, ce mec là je l'avais déjà matché au mois de septembre je crois, début octobre, et en fait c'est moi qui avais supprimé l'appli pour je sais plus trop quoi, et donc voilà, et là je l'ai retrouvé en fait. Et donc on a super bien parlé etc, les jours faisant, c'est un truc de malade parce que... On a vraiment découvert énormément de points communs, on s'entendait de ouf, on parlait tout le temps jusqu'à 3h du matin. Enfin, je sais que Pascal, c'est qui met deux jours à répondre à un texto, ça va lui paraître aberrant, mais...
mais... C'était pas Pascal a priori, quoi, ça c'est sûr.
Alors c'était pas Pascal, ça c'est clair. Ça c'est clair et net, mais... ça il n'y a aucun doute là-dessus.
Faisons une toute petite parenthèse, Aude et ouais. Pascal ont l'air d'être un peu intimes parce que Aude est déjà venue. Dans le podcast, c'est toi qui a fait le fameux épisode sur
l'épisode SMS WhatsApp, ouais. Comment communiquer, yes. À l'écrit.
Voilà, c'est tu es revenu
dans un SAV aussi.
Voilà, j'ai rien à te dire. Et on s'est croisé aux soirées, à la soirée Don't Swipe aussi. Donc voilà.
Attends,
il y a une certaine intimité entre Pascal, oui. Et Aude. Après, moi, j'en sais pas plus. Hein.
Et ben non, mais attends, mais il y a encore un dernier volet, c'est que tu animes actuellement le podcast de Nathé Véro, si je ne m'abuse.
Exactement, ouais, c'est ça. Donc, comme quoi, ça arrive.
C'est, voilà.
Voilà. Donc, comme quoi, même chez Nathé Véro, ça arrive.
T'es un peu une experte des sites de rencontres. Enfin, ouais, à chaque fois, tu nous racontes des histoires de ouf.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, en plus, c'est le pire, c'est que c'est un mélange de un peu experte entre guillemets. Ça fait qu'un an et demi, mais j'ai eu pas mal de trucs en même temps. Bah, les podcasts, en même temps, voilà, je fais des recherches personnelles, j'écris un bouquin là-dessus. Donc c'est vrai qu'en plus de tout, si tu veux, sur l'archétype de la nana qui est assez fine psychologue, qui connaît quand même pas mal de rouages, qui écoute pas mal depuis pas mal d'épisodes les mecs et qui les interviewe, c'est juste une aberration sans nom de penser que, enfin, sur le papier, j'entends, attention, hein, que ça puisse nous arriver. Et en fait, bah, finalement, ça nous arrive. Et même les gens comme moi qui sommes les plus cartésiens et qui tombent amoureux, mais très lentement, genre un diesel. Et là, du coup, ça arrive. Et en fait, pour faire simple sur la partie et rapide et concis sur la partie sentiment, c'est ça en fait qui fait qu'en plus de tout, vous hésitez vraiment à en parler à vos proches. Et moi, je l'ai pas dit parce que pour la première fois de ma vie, voilà, en 15 jours, 3 semaines, sans avoir vu le bonhomme, bah en fait, les échanges, ils sont tellement ouf. Vous avez des heures au téléphone, qu'en fait, il y a des sentiments qui commencent à naître et mais vraiment des sentiments profonds. Et vous vous dites, putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Il se passe quoi? C'est pas normal. C'est comme si vous aviez un pitbull au bout de la laisse que vous essayez de retenir parce que vous vous dites non attends, je vais pas lâcher les chevaux, t'es malade ou quoi, le gars tu l'as pas vu, t'es sérieux? Et en fait, à un moment donné, bah, les sentiments ou le truc, il est tellement fort, ça vous dépasse. Et même, je vous jure, vraiment, je suis mais méga cartésienne dans ma vie, je calcule entre guillemets pas tout, je suis pas une psychorigide, hein, mais voilà, j'ai un métier qui fait qu'il faut que j'anticipe et tout ça machin et tout. Et les à côté avec les podcasts, bah voilà, les gars, vous commencez à les cerner aussi. Et bim, ça vous tombe dessus, quoi. Et en fait, jusqu'à échanger, et ça, c'est là que ça va faire bondir tout le monde. Mais je vous jure que si vous le vivez pas, vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais je sais que les gens vont juger, vont dire, mais elle est malade, cette meuf. Mais jusqu'au je t'aime, en fait, qui sort. Et vous le pensez, ouais, vraiment à ce, ouais, moment-là. Mais
alors
vraiment.
Alors que tu l'as jamais vu.
Alors que je l'ai jamais vu.
Mais raconte-nous juste un peu de contexte, là, parce que ça a duré combien de temps et parce
Alors
que...
en fait, ça a duré. Plus de 15 jours vraiment d'échanges non-stop à se coucher jusqu'à 4h du matin. On était censé se voir donc juste après Noël, donc un lundi. Et là, en fait, comment essayer de faire rapide, le matin, je rallume mon portable et là je reçois un message qui datait de 5h du matin, assez long comme le bras, qui me disait en substance, tout ce que j'ai dit, je le pensais et je le pense toujours, je le ressens aussi, j'ai une hâte de ouf, c'est de te rencontrer, mais tu peux pas savoir, tu peux pas imaginer. Mais le problème, dans ma tête, dans mon cœur, je le suis, mais en réalité, sur le papier, je suis pas célibataire. Et donc en fait, la conversation dure une heure et demie au téléphone le lendemain matin. Je lui dis, écoute, tu fais ce que tu veux, moi clairement je te laisse au cas où quelques jours, parce qu'il m'explique que ça fait 38 fois qu'il essaye de larguer la meuf, mais en réalité il y a 2 mois et demi, 3 mois la mère de la nana est morte de suite de longues maladies absolument catastrophiques, et donc du coup il avait du mal à la larguer, elle lui faisait du chantage affectif, etc. Je lui dis, bah écoute, je te donne quelques jours, puisque visiblement tu voulais vraiment la larguer, visiblement on a vraiment un coup de foudre numérique, donc je te laisse quelques jours, et dans quelques jours, si c'est pas fait, en gros je me taille, quoi, parce que j'ai pas envie de souffrir inutilement et ça sert à rien, sachant que les chevaux étaient déjà emballés. Et autant vous dire que il a essayé de la voir deux fois, et les deux fois, elle lui a posé, elle lui a annulé à la dernière, elle l'a annulé à la dernière minute, jusqu'à lundi dernier. C'est pour ça que je vous dis, ça fait une semaine jour pour jour. Il était censé la voir. Du coup, il me dit, je te tiens au courant, vers 14h-14h30. C'était censé pas durer très longtemps, puisqu'ils ont, ils avaient déjà eu, soi-disant, cette conversation un nombre de fois incalculable. Donc, c'était juste histoire d'acter, si vous voulez, le bail. Et là, genre, deux heures plus tard, j'avais pas de nouvelles. Et donc, je lui dis, excuse-moi, mais ça en est où? Parce qu'en fait, on était censé se voir le soir même. Il devait me chercher au taf.
La première fois.
Ouais. Enfin, okay. dans la ville, parce qu'en fait, il vit dans la même ville de là où je travaille, et on devait se retrouver à mi-chemin. Et en plus, je passe devant chez lui tous les jours, et comment dire, enfin, devant son soi-disant chez lui. Et donc voilà. Et donc là, en fait, je terminais mon taf 50 minutes plus tard, donc fallait que je sache quand même un petit peu si je rentrais chez WAM ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Et là, en fait, il me balance la bombe comme quoi ce que je lui avais dit la veille, qui dit c'est bizarre quand même que la meuf elle veuille toujours te voir, que à force de lui dire que tu veux vraiment rompre, etc., enfin, qu'elle veuille encore te voir, etc., etc., enfin, au bout d'un moment, tu comprends le truc, et puis c'est fini, quoi. Et, bah, en fait, soi-disant, elle était enceinte.
Et donc
il voulait être papa depuis qu'il avait 15 ans, et que pour lui, dans sa manière de penser, de voir les choses, c'était impossible de pas être avec son enfant H24, de louper des moments, etc.
D'accord.
Et donc, juste pendant 3 jours, ouais. On n'a pas arrêté de parler, on a dû se parler 6 heures au téléphone. Et là, le climax, le jeudi, je lui envoie quand même un message, sachant que moi, j'en envoyais jamais, c'était lui qui envoyait en premier. Là, pendant le reste de l'après-midi, le message envoyé, qui était gentil, qui avait rien d'exceptionnel, reste avec une seule encoche de WhatsApp. Et le soir, vers 20h, je me dis, c'est quand même chelou cette histoire, tu vois, des trentenaires de nos jours... Ils peuvent pas rester la journée sans que leur batterie soit déchargée, sachant qu'il m'avait pas bloqué, hein, parce que je voyais toujours sa photo, qui est le signe qu'on vous a bloqué généralement. Et en fait, j'essaye de l'appeler, et là, je tombe sur une messagerie vocale qui me dit que le numéro n'est pas attribué, qu'en fait, c'était une espèce de numéro, en fait, moi, je connaissais pas, c'était une appli qui a été créée par Ty Chris, qui a pas pour but de faire ça du tout, mais qui, en gros, c'est comme si tu pouvais avoir un double numéro. Quoi.
Ouais, ouais.
Voilà, mais tout est vrai, en fait, c'est comme si t'achetais une autre puce Orange pour les professionnels et que t'avais deux portables. Sauf que là, ça te permet, je pense que Ty Chris, c'est pas un enfoiré qui veut, c'est le gars qui fait les rollers, là, pour ceux qui connaissent pas, là. Et qui avait vraiment pour but de monter sa boîte, quoi. Sauf que bah, les gens s'en servent pour ça aussi.
Mais du coup, donc le mec, il a disparu de la circulation, mais.
Il a disparu du jour au lendemain.
Rien du tout, c'est juste
mon ego et mon amour propre et ma peine et tout ça qui est parti avec, quoi.
Ah oui, donc, mais c'est. Ouais. Alors,
j'ai du mal à comprendre la démarche, du coup. C'était quoi?
Bah, justement, on comprend pas non plus.
C'est un mec qui voulait se chauffer sur toi, que tu lui plaisais, et puis d'un coup, il a changé d'avis, quoi.
Non, parce que jusqu'à la, il y a jamais eu de sexto, il y a jamais eu de photo, ça a toujours été, tu vois, genre vraiment genre en mode romantique au possible, et des échanges sur l'art, les trucs comme ça, etc. Et en fait, jusqu'à la veille, en fait, il me disait. C'est horrible, je veux toujours avoir des contacts avec toi, même si c'est machin et tout.
Mais c'est quoi le but de tout ça? Parce que autant
c'est des vrais sadiques. En fait, c'est des vrais sadiques.
Parce que moi, je peux comprendre ça dans la démarche où il y a eu consommation sexuelle. Tu vois, si encore il avait passé une nuit avec toi.
Non, mais
je peux le comprendre. Là, le mec, il fait rien, c'est-à-dire juste, il te mindfuck. Il apparaît, il disparaît, et il y a rien, il y a même pas de. Enfin, ouais. Tu vois, quel est le
but? C'est le principe. Enfin, pour entre guillemets raconter ma vie, j'ai ma mère qui est responsable de service en psychiatrie et en addicto, et elle me dit que malheureusement, bah, les sadiques au sens vraiment médical et psychiatrique du terme, bah, ça existe, et qu'en fait, ce sont des gens qui prennent du main. Mais en sachant que le mec, quand on était au téléphone là de lundi à mercredi, il pleurait au téléphone.
Ouais.
De cette situation. Moi, je me disais, mais c'est pas possible de feinter la voix. Mais c'est pas. Non, mais à un moment donné, vous vous dites, c'est pas possible de feinter la voix.
Oui,
de
mais feinter tu t'en rends compte que là, aujourd'hui, tu t'en rends compte que c'était du fake. Je veux dire, au moment où il feintait, tu t'en rendais pas compte parce que t'étais dedans. Mais aujourd'hui, étant donné la situation, t'es obligé de. Enfin, tu te le dis ça ou pas? Parce que moi, je me le dis. Hein. Moi, clairement, je me dis, bah, ok.
Parce qu'en fait, le truc, c'est que la pilule est passée.
C'est une fois que la pilule est passée, que là, qu'il supprime son numéro.
C'est hyper schizophrénique parce que d'un côté, vous Covid, bah oui, bah bien sûr, comme 2+2=4, il y a pas de doute. Enfin, allô. Et avec la confirmation, je vous dis, ça fait un peu vie ma vie, mais de ma mère, etc., qui me disent, bah en fait, il y a vraiment des gens qui sont sadiques et qui sont dérangés. Et le pire, c'est que dans ces cas-là, ils y croient vraiment. Donc ça se trouve, dans sa folie, il y croyait vraiment à ce qu'il disait. Sauf que là, tu le mettais un peu au pied du mur, tu lui disais, écoute, on se voit au moins, même ne serait-ce que 5 minutes, histoire qu'on se soit vu, même s'il y aura rien. Sauf que là, du coup, il voyait qu'il avait pas de way out possible, et donc c'est pour ça en fait que tu insistais, et que du coup c'est pour ça que là il s'est senti piégé. Et voilà.
T'avais moyen de savoir si c'était il existait vraiment, ou si c'était, parce que dans le catfishing, ce qu'on comprend, c'est que c'est un faux profil, ouais. C'est des fausses photos.
En fait, moi justement, je vous avoue qu'en sortant du taf, comme j'habite en fait juste à côté de chez lui, enfin du pseudo chez lui, et que j'habite,
tu as essayé de stocker un peu ou...
En fait, j'ai essayé de faire un truc tout con, ce que font beaucoup de gens quand tu regardes Pinterest ou des trucs comme ça, c'est de faire Google image inversée, et il n'y a rien qui est sorti. Mais en même temps, j'ai fait le test avec moi, et ça n'a pas marché, alors que mon compte Insta, il est en open. Donc je me dis, bon, il doit y avoir une couille quand même, parce que moi je sais que j'ai mon compte Instagram, donc je suis pas un catfish de moi-même. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans la rue où il est censé habiter, et en fait je suis allée à l'adresse, et j'ai demandé à la boulangerie qui était en bas de chez lui et à la pharmacie qui était en bas, juste pour savoir en fait s'ils avaient déjà vu cette personne, et en fait ils l'ont jamais vu. Donc en fait, si tu veux, en effet, c'est un catfish du début jusqu'à la fin, quoi.
Mais c'était quoi son intention? Alors on pense que c'est juste folie, quoi, ou...
on sait pas.
Et c'est ça qui est blessant, c'est de pas savoir, c'est de pas comprendre.
C'est-à-dire que vraiment c'est de pas savoir, c'est d'être dans l'incompréhension. Vous savez, alors je suis désolée par avance, c'est peut-être un peu horrible cette comparaison, mais vous savez, c'est comme les parents qui perdent leurs enfants et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et en fait, c'est un peu le même truc. En fait, le fait de ne pas savoir véritablement le pourquoi du comment, c'est ça en fait qui bouffe. Le fait aussi de s'en vouloir, parce que vous connaissez, vous savez que vous êtes cartésien, vous savez que les gens vont pas vous croire, ou alors ils vont vous prendre pour une folle. Mais t'es une pauvre fille en fait, tu te prends au jeu, mais on le sait que ça existe, mais t'es débile ou quoi, c'est normal, t'aurais dû le voir à 10 km. Mais je vous jure que quand vous le vivez, c'est différent. Et c'est, du coup, c'est horrible, et moi je vous avoue, j'ai pas trop mangé les jours qui ont suivi, quoi.
Bah, c'est d'autant plus horrible quand on est cartésien, ce qui insinue que tu aimes comprendre les choses, ouais. que tu as plus ou moins une explication à tout ce qui t'arrive habituellement. Et en l'occurrence, là, c'est compliqué d'en avoir une.
Et du coup,
c'est ça. Et surtout qu'en plus, vous êtes vraiment dans une schizophrénie, c'est-à-dire que vous vous dites, mais vous savez que vous avez toujours le manque et le sentiment, mais vous savez pas à qui ils appartiennent, en fait, du coup.
Du coup, Aude, dans l'autre histoire, celui qui a essayé de t'arnaquer, ouais. Quelque part c'est moins blessant parce que t'as compris la finalité du...
Ouais, exactement. C'est-à-dire que t'as une closure, quoi. Tu sais en fait que tout ça, voilà. Alors que le mec, tu sais qu'en fait il existe vraiment parce que tu l'as eu au téléphone.
Le mec qui a essayé de te voler, juste comment il a, enfin, en deux secondes, hein, juste pour que les gens qui nous écoutent tombent pas dans le même truc.
Comment il a quoi?
Comment il a réussi?
En fait, c'était pendant le confinement, et il avait dit je sais plus quoi, il y avait un problème avec sa banque, et en fait il voulait m'envoyer l'argent que je dépose sur mon compte, et ensuite je le rebalance à quelqu'un parce que son compte était bloqué, je sais pas quoi. Sauf qu'en réalité, j'ai appris plus tard la manière dont c'était fait, c'est-à-dire que vous prenez l'argent, vous croyez qu'il est sur votre compte, et donc en fait dans moins de 24 heures vous le rebalancez à quelqu'un d'autre. Sauf qu'en réalité, les banques, ils vous le mettent, mais c'est de l'argent virtuel, et en réalité ils vous mettent 3 jours avant de véritablement, le temps de vérifier le chèque, le machin, la provenance et tout. Donc en fait, en moins de 24 heures vous pensez avoir déposé l'argent, et en réalité vous la ressortez, et c'est là qu'en fait vous faites couiller de 5000 boules, par exemple.
Ah ouais.
C'est pas les brouteurs, ça s'appelle, ça, les techniques, non?
Oula, je sais pas.
Ouais, c'est ça, Valentin.
Mais donc t'es pas tombé dedans, en tout cas?
Non, je suis pas tombé dedans, non, parce que à bout d'un moment ça commence, parce que c'est une question d'argent, et il est hors de question. Je suis paradine, mais enfin le mec, je le connais, c'est pas, mais c'est pour ça que il faut être hyper vigilant. Moi je l'ai vu tout de suite, le mec qui voulait m'arnaquer. Mais là, pour des gens qui veulent juste vous manipuler, ou vous faire de la peine, ou vous détruire, ou on sait même pas, où c'est des sadiques, où justement il y a pas d'argent, il y a pas de chantage. pourcentage par rapport à des sextos, il n'y a pas tout ça. C'est là, c'est le plus vicieux, parce que déjà d'une, les gens, ils vous regardent comme si vous étiez une pauvre conne, excusez-moi de la vulgarité, de naïve, et vous, vous savez, alors que vous savez qui vous êtes et que vous ne feriez pas ça d'habitude, et là, vous vous retrouvez avec vos pauvres sentiments que vous ne pouvez pas contrôler, votre manque qui est toujours là, mais en fait, il appartient à qui ? Vous ne savez pas.
Ouais.
Et vous n'avez pas vos réponses et c'est horrible. Donc faites vraiment super attention.
Du coup, tu vas pas enchaîner sur les applis prochainement.
Ah non, je les ai supprimées du coup. Je vais attendre un peu là parce que je crois que j'ai besoin
t'as une autre possibilité, tu vois.
Bah ouais.
Ouais, mais je suis pas dans le morbillon moi.
Ça fait loin le morbillon.
Merci du coup. Merci Yo de ta participation.
Vous,
et bah, c'était super. Merci à tous d'être venus. Merci Charlotte, merci Valentin, merci Ferdi. Et encore merci Aude. C'était un super épisode de rentrée pour bien commencer l'année avec vos anecdotes et vos impressions. C'est top. Je reviens juste rapidement. On a eu un petit commentaire sur Instagram qui nous disait que quelqu'un allait réagir sur l'épisode du Mal Alpha, qui est notre dernier épisode en date, qui a eu énormément de réactions diverses et variées. Nous, on va pas revenir dessus. Hein, voilà, notre épisode est ce qu'il est. On a discuté sur les réseaux de ce qu'il en est. On rappelle à toutes fins utiles que ce n'était que l'avis de Valentine, notre invitée, que ce n'était pas des généralités, que ce ne sont pas des injonctions, parce que ce n'est pas notre manière de fonctionner. On va peut-être devoir le redire à chaque épisode, mais nous, on généralise pas, on fait pas d'injonctions, on écoute les gens et notre volonté, c'est de laisser la parole à plein de gens sans juger de qui a le droit de parler ou qui n'a pas le droit de parler. Donc voilà, juste je le rappelle parce qu'il y a eu beaucoup de réactions et je comprends tout à fait ces réactions. Elles sont tout autant légitimes que les témoignages de Valentine. Voilà.
Bah, carrément, donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà,
pour ceux qui l'ont écouté, gardez de la force parce que le prochain qui sort jeudi, il parle de l'épanouissement sexuel après 12 ans de vie en couple. Et c'est un épisode qu'on a été enregistré à Lyon, donc grâce à nos tipeurs.
Ouais, c'est un épisode de ouf, franchement.
Et c'est un épisode de ouf. Et juste si je peux me permettre une petite anecdote, il y a. Notre community qui l'a réécouté aujourd'hui et qui m'a fait un audio hyper long pour me dire à quel point elle avait trouvé l'épisode génial. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'elle a beau travailler avec nous, elle a beau nous suivre et tout, elle est vraiment voilà, donc du coup c'est vraiment moi ça me fait plaisir d'entendre que quand on écoute l'épisode, on le trouve vraiment super. Donc jeudi, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que c'est vraiment un super épisode là.
Mercredi pour les tipeurs.
Et mercredi pour les tipeurs, bien sûr.
Si vous tipez demain, bam, mercredi vous avez l'épisode.
Mais non, mais le mieux c'est même de tiper ce soir, je pense. Il est encore 22h10, il vous reste toute la soirée pour tiper. Faut y aller.
Moi, je ne ferme pas. Tiens, je vais tiper. Ne ferme pas.
Non, mais c'est vrai parce qu'il y a la tout le monde a sa carte bleue. Moi, regarde, j'ai ma carte. Mais tu sais quoi, je vais tiper maintenant, Dan. Non, mais j'ai ma carte là, à portée de main.
Moi aussi.
Regarde, allez, je vais tiper. Allez, c'est parti. Je tipe. J'ai un petit 50 balles mensuel à mettre là. Ça...
Moi, je vais mettre 100, moi. Moi, je mets 100 direct.
Arrêtez, Mitch, il va mettre 2000.
Bon, c'est allez, cool en tout cas. Merci à tous de nous écouter.
Merci à tous. Merci Mitch. Merci
embrasse.
Cynthia. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices. N'hésitez pas à nous contacter. Laissez vos avis, vos partages d'expérience sur nos comptes Instagram, sur YouTube.
Shiva a tippé, regarde, sur Instagram. Merci.
Ah, bah c'est formidable. C'est formidable. C'est parti. Et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode des Gentilhommes. Ciao.
Merci
bonne soirée,
à tous.
Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.